Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Avec à la présentation Fréjus Kenom, c'est un retour en flash dans ce magazine. Carole Assignon a pris quelques jours de vacances. Au programme, une interview sur les 100 ans de la capitulation des troupes allemandes dans l'ancienne colonie togolaise. Et dans une seconde partie, votre rubrique Afropresse avec Philippe Poyan. Bonjour Philippe.
Bonjour.
La revue des thèmes africains parue dans la presse allemande est d'abord un aperçu des grands thèmes dont nous parlerons.
Oui, nous parlerons encore une fois et toujours de l'épidémie de la fièvre hémorragique due au virus d'Ebola. Par ailleurs, les éditorialistes commentent aussi la vague d'arrestations récentes au Rwanda dans les rangs supérieurs de l'armée. Et enfin, les journaux se penchent également sur les activités terroristes de Boko Haram au Nigeria.
Afropresse, rendez-vous avec Philippe Poyan dans quelques 5 minutes. Bienvenue dans ce magazine. Le 26 août dernier marquait les 100 ans de la capitulation allemande au Togo durant la Première Guerre mondiale. Le conflit n'a duré que 3 semaines dans l'ancienne colonie allemande. Les troupes allemandes prises en étau par les alliés se retrouvent autour de Kamina. Cette localité, située à 100 de kilomètres de Lomé, abritait la station de radio des Allemands. Mais la Reichswehr, l'armée allemande de l'époque, a préféré faire sauter le poste avant sa reddition plutôt que de le laisser aux alliés. Le 26 août, le Togo allemand se rend. Retour sur cette reddition avec le professeur Adjaï Kokou Olupona du département d'allemand de l'université de Lomé. Il est au micro de Noël Tadegnon, notre correspondant au Togo.
La guerre a commencé au Togo pratiquement début août, mais au bout de 3 semaines, elle était terminée avec la reddition des troupes allemandes devant les troupes franco-anglaises le 26 août. Les Allemands des colonies, en particulier du Togo, n'étant pas préparés à faire la guerre, devaient se battre selon les moyens qu'ils avaient. Et le Togo, au Togo, les Allemands du Togo n'avaient pas une force militaire suffisante pour affronter les Anglais et les Français.
Comment ça s'est passé, cette reddition?
Pour ne pas dire que c'est les Anglais qui ont obtenu la reddition des Allemands, c'est ensemble que Anglais et Français ont obtenu la reddition des troupes allemandes le 26 août 1914.
Et comment la population avait réagi?
Le cas le plus connu, donc, c'est celui d'Anehor que j'évoquais. Il est établi que la population d'Anehor avait aidé les Français à prendre possession de la colonie. Il faut savoir que le roi Lawson a été plusieurs fois, disons, sanctionné par les Allemands, il était même en exil et tout ça. Donc, on peut comprendre que la population d'Anehor ne soit pas tout à fait favorable aux Allemands. Il ne faut pas oublier non plus que depuis 1884, c'est-à-dire tout au début de la colonisation allemande au Togo, il y a eu un contentieux entre les Allemands et les rois Lawson, celui de l'époque. Hein? Donc, c'est 30 ans de colonisation, mais ce sont des choses que les populations n'ont pas oubliées. Donc, c'est ce qui explique du côté d'Anehor le soutien aux forces françaises. Mais il y a le fait aussi que toutes les forces noires de la troupe coloniale allemande avaient disparu pratiquement. Hein. Les Allemands se sont retrouvés presque seuls, avec quelques rares fidèles noirs. Et si on part de ces deux constats, on peut considérer que beaucoup de populations, même celles qui se taisaient, n'étaient pas prêtes à soutenir les Allemands, n'étaient pas prêtes à se battre pour les Allemands. On ne connaît pas de cas de gens qui se soient vraiment spontanément mobilisés pour combattre aux côtés des Allemands.
Après avoir goûté à la colonisation allemande, après avoir été sous les Français, est-ce que par la suite, les Togolais ont regretté le départ des Allemands?
Bien sûr, il y a eu des Togolais qui ont regretté le départ des Allemands. Bon, c'est une chose tout à fait normale, mais c'est un phénomène superficiel. Il faut aller un peu plus en profondeur pour comprendre que les 30 ans de colonisation allemande, lorsqu'on observe, lorsqu'on analyse cette époque à travers les documents allemands eux-mêmes, ce fut une période très très dure. Mais on sait aussi que juste après la reddition des Allemands, On a interviewé des chefs des populations locales et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils étaient bien contents d'en avoir fini avec les Allemands. Ceux qui ne voulaient pas parler ont dit qu'ils ne voulaient pas parler parce qu'ils ne savaient pas, si les Allemands n'allaient pas revenir. On craignait les Allemands et on les respectait. Et ça, c'est resté.
Voilà, c'était la première partie d'Afrique 7 jours avec le professeur Adjaï Koku Olupona du département d'allemand de l'université de Lomé, interrogé par notre correspondant Noël Tadeignon. Il parlait donc de la capitulation de la Reichswehr, l'armée allemande de l'époque, dans la colonie togolaise. Afropresse à présent, un tour d'horizon de la semaine des journaux allemands sur l'actualité africaine. L'épidémie de fièvre hémorragique due au virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest continue de faire couler beaucoup d'encre et on commence avec la Berliner Zeitung.
On ignore l'ampleur réelle de l'épidémie d'Ebola, souligne la Berliner Zeitung. Les zones d'ombre sont le plus gros problème dans la lutte contre la propagation de la maladie. Ces zones d'ombre, ce sont les régions où les personnels médicaux ne peuvent pas accéder, soit parce qu'ils sont menacés par une population méfiante, soit parce qu'aucun cas de maladie n'y est officiellement déclaré. Au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, nombreux sont ceux même qui sont persuadés que le virus Ebola n'existe pas. D'autres encore pensent que l'on ne peut de toute façon rien faire pour aider un malade touché par le virus. Le journal rappelle qu'au Libéria, à la mi-août, des gens ont même attaqué un centre de soins dans la capitale Monrovia et libéré des patients. En fait, le scepticisme de la population révèle une profonde méfiance envers leur gouvernement dont ils n'attendent aucune aide dans quelque domaine que ce soit et donc pas non plus dans le cas d'Ebola, relève la Berliner Zeitung.
Selon le journal, l'épidémie qui ne sera pas maîtrisée avant 6 à 9 mois risque de désintégrer tous les systèmes sanitaires des États concernés.
Au Libéria, surtout, de nombreux dispensaires et cliniques ont fermé leurs portes, soit par peur d'être envahis par des malades victimes de la fièvre hémorragique, soit parce que le personnel sanitaire ne vient simplement plus travailler. La population ne peut même plus compter recevoir les soins les plus élémentaires, constate le journal. Ainsi, à Monrovia, au moins 6 enfants sont morts nés parce que leur mère avait des heures durant cherché en vain dans toute la ville une clinique où accoucher.
Face à une épidémie qui prend de l'ampleur, les réactions de panique se multiplient, constate aussi la Berliner Zeitung.
En effet, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont entre-temps fermé toutes leurs frontières vers la Guinée et le Libéria, bien que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les déconseillait, entre autres parce que l'approvisionnement dans les pays concernés menace de s'effondrer. Plusieurs gouvernements africains interdisent l'entrée sur leur territoire aux visiteurs provenant des régions touchées. Toutes les branches de l'économie sont concernées, même le tourisme en Afrique du Sud, s'étonne le journal de Berlin. Les Asiatiques, surtout, renoncent à leurs voyages organisés au Cap de Bonne-Espérance. Pourtant, la région touchée par Ebola est à quelques 6000 km de l'Afrique du Sud, rappelle la Berliner Zeitung.
Gros ménage dans les rangs supérieurs de l'armée au Rwanda, c'est le titre d'un article de la TAT, dit Tageszeitung, qui revient, Philippe Poyant, sur l'arrestation de 3 officiers supérieurs la semaine passée.
Parmi ces hauts gradés, le colonel Tom Byabagamba, ex-commandant de la garde présidentielle, chargé de la sécurité du président. Il était juste rentré d'une mission de paix au Soudan du Sud, relève le journal, et avait essayé, selon différentes sources, de libérer sa femme, retenue par la police. Le frère de Byabagamba aurait été lui aussi arrêté. Son épouse avait été arrêtée le samedi soir avec d'autres personnes dans un bar du quartier Nyarutarama, quelques minutes seulement après avoir fait des commentaires désobligeants sur l'épouse du président Paul Kagame, Jeannette.
Oui, une arrestation qui fait suite à une série d'autres arrestations observées d'un œil critique par des diplomates et défenseurs des droits de l'homme, souligne la Tageszeitung.
Le général de brigade Frank Ruzagara, arrêté la semaine dernière, est accusé d'avoir proféré des menaces criminelles contre l'État. Le général à la retraite, Ruzagara, avait servi à la fin de sa carrière en tant qu'attaché militaire à l'ambassade du Rwanda à Londres. Puis, rapporte la TAT, c'est le capitaine David Kabouyé qui a été arrêté. Il s'agit du mari de Rose Kabouyé, la chef du protocole du président Paul Kagame. Le capitaine à la retraite, aujourd'hui homme d'affaires, est entre les mains des enquêteurs, selon un porte-parole militaire qui n'a pas donné plus de détails. Ces arrestations, écrit le journal, sont un pas de plus sur la voie d'une évolution inquiétante dans le pays qui commémore cette année les 20 ans du souvenir du génocide qui avait coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis, d'après l'ONU. Il y a 4 semaines déjà, le président Kagame avait dissous le gouvernement et changé les acteurs de la scène politique.
La TAT toujours rappelle que dans son dernier rapport, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, accuse le gouvernement rwandais d'arrestations arbitraires.
Oui, et la TAT Zeitung note que la peur règne en maître au sein de l'armée rwandaise. Et cela, pas seulement depuis ces dernières arrestations. Les Rwandais peuvent observer ce qui peut arriver à des militaires prétendus illoyaux, comme dans le simulacre de procès contre un ancien garde du corps de Kagame, Joël Mutabazi. Accusé de trahison d'État et de terrorisme, il comparaît devant un tribunal militaire depuis février dernier. Le verdict doit tomber la semaine prochaine. On lui reproche d'avoir collaboré avec des ennemis de l'État rwandais. Pour la TAG Zeitung, la question est de savoir, est-ce que l'ennemi se trouve réellement parmi les officiers supérieurs du régime ou bien la révolution est-elle en train de dévorer ses propres enfants ?
Nous terminons avec le quotidien Die Welt qui évoque les succès remportés par Boko Haram contre le gouvernement du Nigeria et la proclamation d'un califat par la secte.
Le quotidien relève que pour proclamer ce califat islamique, Aboubakar Shekau a adopté sa pose la plus martiale. Encadré de deux combattants masqués et armés de pistolets mitrailleurs, le chef de Boko Haram a lu son discours d'une voix forte, évoquant la conquête de Gwoza comme une grande victoire. La ville et ses 300 000 habitants font maintenant partie intégrante des territoires sous son contrôle. Début août, Boko Haram avait attaqué la ville, brûlé des maisons et investi le palais de l'émir. Plusieurs tentatives de l'armée nigériane pour reprendre le contrôle de Gwoza ont échoué. Le journal cite Shekau : « Nous n'avons pas réussi tout seuls, nous étions des instruments d'Allah. Allah utilisera l'islam pour dominer Gwoza, le Nigeria et le monde entier. » Boko Haram n'a rien à voir avec le Nigeria, nous ne croyons pas en ce nom. » Fin de citation. Pour l'éditorialiste, il est clair que l'on a affaire à une bataille de propagande entre Boko Haram et l'État. L'armée, d'ailleurs, s'est empressée de contredire l'affirmation de Shekau. « La souveraineté et l'intégrité territoriale du Nigeria sont toujours intactes », a déclaré un porte-parole militaire, précisant qu'aucun groupe terroriste revendiquant pour lui une partie du pays ne pourra nous échapper. Difficile à croire. Face à la débandade de plusieurs centaines de soldats et leur fuite vers le Cameroun voisin, écrit le journal. En réalité, pour l'armée nigériane, la perte de Gwoza est une douloureuse défaite qui illustre, une fois de plus, la faiblesse de ces soldats, souvent de loin moins bien équipés que les combattants de Boko Haram. Et, conclut le journal Die Welt, c'est aussi une défaite pour le président Goodluck Jonathan, qui doit fort craindre de ne pas être réélu lors du prochain scrutin présidentiel en 2015.
Afrique 7 jours, c'est terminé. C'était Afropresse avec Philippe Poignan. À la présentation, Fréjus Queneau, merci beaucoup de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute sur Radio Deutsche Welle.